Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce numéro de Mélomanie, le dernier de la saison pour le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et pour refermer ce chapitre 2019-2020, nous allons d'une part revenir sur une actualité très récente, puisque l'Orchestre National du Capitole s'est de nouveau produit en public à la Halle aux Grains, quelques jours avant cette émission, et d'autre part rendre hommage à une personnalité de la scène lyrique nationale qui nous a quittés récemment, Maddy Mesplé, la grande soprano originaire de Toulouse, à qui nous allons consacrer une grande partie de cette émission. Au passage, nous rendrons également hommage au baryton Gabriel Baquier, deux chanteurs qui ont marqué leur époque chacun à leur manière. Mélomanie se devait d'honorer leur mémoire et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec mes invités. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et pour le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, deux passionnés, grands connaisseurs de l'art lyrique et de son histoire à Toulouse. Avant de rendre hommage à Maddy Mesplé et Gabriel Baquier, je vous propose d'abord de revenir sur les concerts de rentrée de l'Orchestre National du Capitole. C'était la semaine passée. Revoici donc notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. L'agenda.
Enfin, l'Orchestre National du Capitole a retrouvé son directeur musical, la Halle aux Grains, et le public toulousain en ce début d'été. Plus de 3 mois qu'ils attendaient et que nous attendions ça, autant vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions les 19 et 26 juin, lors de ces concerts de reprise que nous vous avions annoncés à Mélomanie, lorsque nous avions reçu Thierry Dargoubet, le délégué général de l'orchestre. Des concerts accessibles uniquement sur invitation, Renaud Capuçon était accompagné par l'orchestre le 19 juin, puis Bertrand Chamaillou le 26, où l'on a salué aussi le retour de Tougan Sokiev à la direction. Serge, vous avez assisté à ces deux concerts. Rappelez-nous d'abord quel programme a joué Renaud Capuçon le 19 juin avec notre cher ensemble symphonique toulousain.
Alors, Renaud Capuçon est venu en tant que soliste et chef, puisque vraiment il se met à la direction d'orchestre. Signalons à nos auditeurs qu'il a été nommé directeur musical de l'Orchestre de chambre de Lausanne, grand orchestre de chambre, hein, élargi éventuellement. Donc c'est avec une sorte de gourmandise qu'on l'a retrouvé à la tête de l'Orchestre du Capitole, en tout cas des pupitres de cordes, il n'y avait que les cordes, puisque tout le concert se résumait à deux concertos pour violon et cordes de Jean-Sébastien Bach, le concerto en la mineur et le concerto en mi majeur. Donc il a joué ces deux concerto, mais avant, nous avons reçu le directeur du Théâtre du Capitole qui est venu rendre hommage à Nicolas Joël. Hein. Donc, ce concert, avec ces deux concertos, eh ben, c'est un peu le retour à la vie, hein, pour paraphraser Berlioz, le retour à la vie de musiciens qui étaient visiblement heureux. Heureux, d'ailleurs.
On l'imagine.
Avec Renaud Capuçon, lui-même a d'ailleurs déclaré à quel point il était enfin soulagé de pouvoir jouer face à un vrai public, comme il a dit, il était très heureux. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rangées de la Halle aux Grains, puisque les 3 concerts exceptionnels qui ont été programmés, c'était en même temps un galop d'essai pour savoir comment les choses pouvaient marcher d'ici la rentrée. Et donc, le premier concert, il y avait à peu près 200-250 personnes. Au deuxième, c'était 500. Et au troisième, on va monter jusqu'à 800. Donc voilà, les 2 concertos ont été joués avec une espèce de vivacité, d'énergie et de complicité entre le soliste et les musiciens qui faisait plaisir à voir et entendre, avec des moments de méditation dans les mouvements lents de ces 2 concertos, évidemment. Et donc, un plaisir vraiment visible, un bonheur absolu des musiciens et du public. Donc, ça a été un très beau moment de reprise, en quelque sorte.
Comment étaient disposés les musiciens? Parce qu'eux aussi, ils sont tenus à la distance physique, il faut dire.
Oui.
Donc, ils ont joué à des distances plus importantes qu'habituellement.
Absolument. Ils ont occupé tout le plateau de la Halle aux Grains. Et comme il n'y avait que des cordes, c'était une 20aine de musiciens, il y avait largement la place pour qu'ils soient suffisamment éloignés les uns des autres.
Mais est-ce que le son rendu était équivalent à ce qu'on connaît habituellement?
C'était un peu différent. Comme il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, en plus,
oui.
La résonance de la salle était supérieure. Et donc, non, on avait une ampleur sonore... je dirais pas une résonance, mais presque. Et ça a été encore plus fort dans le deuxième concert dont on va parler également. Donc, vraiment, un grand plaisir. Et les musiciens heureux d'être ensemble. D'ailleurs, musiciens qui entraient sur scène avec leurs masques. Hein. Donc, c'était sérieux.
Le public qui a gardé les masques tout le concert.
Le public entièrement masqué, ouais, obligatoire. Et les musiciens qui entraient avec le masque le déposaient ensuite, le suspendaient à leur pupitre pour jouer sans masque, évidemment.
Eh bien, je pense que personne ne verra d'inconvénient ce qu'on écoute maintenant. Un extrait du concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach, dont voici le tout début, le premier mouvement, et c'est bien sûr Renaud Capuçon qui l'interprète. Premier mouvement, Allegro moderato du concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach, joué par Renaud Capuçon, accompagné ici par l'Orchestre de Chambre d'Europe. C'était une des œuvres au programme du concert de reprise de l'Orchestre du Capitole, avec le célèbre violoniste le 19 juin, et le vendredi suivant, le 26 juin, l'orchestre retrouvait un pianiste tout aussi célèbre, et surtout célèbre dans sa ville de naissance, Bertrand Chamaillou. Les musiciens et le public ont eux eu la chance de retrouver Tougan Sokiev à la direction. Et ça a été un grand bonheur pour tout le monde, Serge.
Ah, un bonheur extraordinaire, parce que là, tous les pupitres de l'orchestre, ou en tout cas les principaux pupitres, vent et cordes et percussions étaient présents, et alors là, vraiment, les sourires étaient épanouis, y compris celui de Tougan Sokiev. Il faut préciser quand même que la disposition est très différente. On avait enlevé absolument tous les fauteuils du parterre, et donc le plateau de la halle au grain débordait sur le parterre pour que les musiciens aient suffisamment d'espace. Et surtout pour les vents. Les vents doivent être encore plus éloignés les uns des autres que les cordes, hein, puisque les vents, c'est avec la bouche et les postillons sont toujours possibles. Donc la disposition était très particulière. Et j'ai comme l'impression que cela a provoqué un changement encore plus radical de l'acoustique. C'est-à-dire on avait une impression de transparence en même temps que d'intensité beaucoup plus forte que d'habitude, à tel point que certains disaient « Ah ben il n'y a qu'à enlever tous les fauteuils pour tous les concerts. »
Ça a été aussi mon impression, effectivement. L'intensité du son était vraiment différente.
Une impression très particulière. Et donc là, un bonheur de tous les musiciens et de leur directeur musical. Donc c'était vraiment un grand bonheur pour tous.
Le programme, qu'est-ce qu'ils nous ont joué ?
Alors, le programme, il y avait d'abord du Mendelssohn, avec en ouverture, une ouverture justement, l'ouverture alors soit de la grotte de Fingal, soit l'ouverture des Hébrides, elle a deux noms, hein, cette ouverture que Mendelssohn a écrite à la suite de son voyage en Écosse, qui l'avait complètement fasciné. Donc c'est une œuvre pleine de vitalité, de bonheur, là aussi, de lumière, qui a été magnifiquement jouée par tout l'orchestre. Hein, là. On sentait qu'il y avait une cohésion encore accrue de tous les pupitres de l'orchestre. Et puis, en dernière partie, il y avait la fameuse quatrième symphonie dite italienne.
Alors, je propose qu'on en parle après. Il faudrait qu'on parle d'abord de la suite du programme, parce que là, on avait arrivé la Guestar, comme on dit aux États-Unis, Bertrand Chamaillou, alors, qui joue à domicile. Qui a eu beaucoup, beaucoup d'applaudissements, bien entendu.
Ah, absolument. Alors,
d'autant plus qu'il a joué un concerto en sol de Ravel.
C'est un grand interprète de Ravel, dont il a enregistré l'intégrale pour piano solo. Et là, il est parfaitement à l'aise, à la fois dans la virtuosité complètement débridée par moments, l'aspect jazzique de certains traits. Mais vraiment, la complicité a été absolue entre le chef, le soliste et les musiciens. Donc c'était un immense plaisir, avec une chose qu'il faut souligner, c'est la qualité des solos des musiciens de l'orchestre.
Parce qu'il y en a beaucoup, non, justement.
Et Dieu sait que c'est presque un concerto pour orchestre.
Mais c'est beaucoup un concerto pour orchestre, c'est ce que disent beaucoup de pianistes.
Oui, avec dès l'ouverture le solo de trompette ahurissant par Hugo Blacher, on y est habitué, c'est un grand musicien. Plus le solo de cor qui est tellement redoutable et périlleux qui a été joué la partie bokeh, une merveille absolument. Et le très beau solo de cor anglais pour le mouvement par Gabriel Zanneboni, que l'on connaît bien, hein, qui est une très grande musicienne aussi. Donc vraiment un bonheur, une espèce d'interprétation où la couleur était au premier plan. Hein. Vraiment, c'était un tableau extraordinaire.
Très important dans cette œuvre.
Vraiment une complicité absolue.
Bertrand Chamaillou aura 40 ans l'année prochaine, il est né en 80, je pense qu'il arrive vraiment à l'âge de la pleine maturité.
Je pense
qu'il est au sommet de son art là.
Et une intensité dans son jeu qui était incroyable.
Oui. Et une facilité aussi.
Facilité, équilibre avec l'orchestre, en fait tout était parfait là, vraiment.
Et du coup il nous a gratifié d'un bis. Vous parliez de son enregistrement de l'œuvre pour piano, l'intégrale de l'œuvre pour piano seul de Ravel.
Oui.
Alors il a joué un morceau parmi tous ceux qu'il a enregistré.
Voilà, mais un morceau qui le plus souvent est joué dans sa version orchestrale. Et là il a joué évidemment la version originale de la fameuse pavane pour une infante défunte. Là, c'était vraiment magnifique.
On aurait entendu une mouche voler.
Complètement. Il y avait
un silence religieux là pour écouter Bertrand Chamaillou jouer cette pièce. Ouais. Je pense qu'il aurait pu jouer un autre bis, tout le monde était pour. Hein.
Ah, tout à fait.
Je l'ai même espéré moi-même.
On l'a rappelé, et puis à la fin, il a pris son masque, et puis il a montré qu'il partait, donc ça s'est arrêté au premier bis, mais vraiment un bis magnifique.
Voilà donc ce bis qu'a joué Bertrand Chamaillou, pavane pour une infante défunte, elle était d'une tendresse, d'une beauté vraiment déchirante. Hein. Le concert a été enregistré, ce qui me permet de vous faire écouter cette pièce, telle que nous l'avons entendue vendredi dernier à la Lograin. C'est un vrai moment de grâce.
Thank you.
Lavanne pour Une infante défunte de Maurice Ravel, tel que Bertrand Chamaillou l'a joué vendredi à l'Allograin pour son bis lors du concert qu'il a donné avec l'orchestre du Capitole. C'était vraiment du live ce que vous venez d'écouter. Un orchestre du Capitole qui a conclu ce concert avec la très belle 4e symphonie de Félix Mendelssohn, celle qu'on appelle aussi la symphonie italienne. Là encore, Serge Chosy, l'énergie, l'enthousiasme des musiciens, leur bonheur de rejouer ensemble, ont fait des merveilles. Ils nous ont vraiment offert une interprétation très enlevée et je dirais même presque fastueuse.
Ah oui, tout à fait. Tout a débuté par cette espèce de fébrilité des premières mesures de l'Allegro vivace. Formidable. L'andante est pleine d'une grâce poétique incroyable. Le troisième mouvement, pareil, magnifique. Et enfin, le saltarello, le mouvement final. Alors là, c'était une débauche, hein, un final bondissant, tout à fait jubilatoire. Et vraiment en situation, on peut dire, avec les circonstances de cette reprise de l'orchestre. C'était vraiment une fête absolue. Et d'ailleurs, à la fois les musiciens et le chef ont joué ça avec le sourire. C'est vraiment un sourire qui passait par la musique, par le son. À la fois poésie, vitalité, énergie, vraiment un grand moment.
Alors là aussi, ce concert ayant été enregistré, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir la chance d'en écouter un nouvel extrait et ça va être le premier mouvement de la 4e symphonie italienne de Mendelssohn, le début donc très célèbre. Ça devrait vous dire quelque chose. La symphonie numéro 4 italienne de Félix Mendelssohn et son célèbre premier mouvement Allegro Vivace, dernière œuvre jouée par l'orchestre du Capitole sous la direction de Tugan Sokiev lors de son concert du 26 juin. Nous retrouverons maintenant l'orchestre du Capitole en septembre prochain, le 10 donc, pour le concert qui va lancer sa saison 2020-2021. Après ce retour sur l'actualité récente, nous allons maintenant rendre longuement hommage à Maddy Mesplé. La soprano toulousaine s'est éteinte le 30 mai dernier, à l'âge de 89 ans, dans la ville qu'il avait vu naître et où elle résidait depuis des années. Nous avons tous les trois eu la chance de la rencontrer, mais Robert et Serge, vous l'avez beaucoup mieux connue que moi et surtout beaucoup plus vue et entendue sur scène que moi. Je vais vous demander de raconter vos souvenirs avec elle, vos émotions de spectateur et puis de revenir sur son immense carrière. Avant ça, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs comment tout a commencé pour Maddy Mesplé à Toulouse, comment elle est venue à la musique et au chant et quelle fut sa formation musicale dans la Ville Rose puis à Paris?
Alors, sa formation musicale, en fait, elle a été, je pense, assez encouragée par ses parents, puisqu'elle souhaitait faire avant tout du piano. Et donc, elle a étudié le piano au conservatoire de Toulouse. Et ça a très bien marché. D'ailleurs, ce qui lui a permis assez rapidement de gagner sa vie, puisqu'elle accompagnait des chanteurs de variété. Elle joue à l'Albrighi. Les anciens Toulousains se souviennent du café-concert de l'Albrighi. Puis, tout en se perfectionnant au piano, elle a commencé à accompagner des chanteurs lyriques. Et donc, tout d'un coup, c'est un autre domaine d'activité musicale qui s'est mis à l'envahir. Et puis, à un moment, elle a dit « Non, mais moi, finalement, c'est pas du piano que je veux faire, c'est du chant. » Et donc, elle est rentrée à nouveau au conservatoire de Toulouse dans la
classe de chant.
La classe de chant de Chauny Lasson, la femme du directeur de Capitole, Louis Isard. Ça a super bien marché à tel point que le père Isard, comme on l'appelait, lui a dit « Mais il faut à tout prix que tu auditionnes. » Et il y avait à cette époque-là, mais je pense que c'est toujours le cas, en Belgique, un grand bouillonnement lyrique à Liège et à Bruxelles. Et donc, il a fait auditionner à Liège. Il lui avait fait préparer l'air de l'Acmé, puisqu'en fait, Madame Esplée était soprano lyrique colorature. Ben voilà, elle auditionne à Liège. À Liège, ils l'entendent et ils n'en reviennent pas, à tel point qu'il faut immédiatement signer un contrat. Puisque vous savez, à cette époque-là, il y avait des troupes, comme au Capitole d'ailleurs. Hein. Et à Liège, il y avait une fameuse troupe d'ailleurs. Et donc, elle est embauchée à Liège immédiatement. Et dès la saison suivante, elle est prise. Et évidemment, ça ne vous étonnera pas, pour chanter l'Acmé, ça a été un triomphe absolument incroyable. À tel point qu'immédiatement, ils lui ont demandé pas mal d'autres rôles. Et puis, ma foi, de bouche à oreille, de radio en papier spécialisé, on commence à parler d'une jeune Française. Et effectivement, il y a des oreilles attentives qui vont l'écouter à Liège. Et elle est embauchée à l'Opéra Comique de Paris. Mais en même temps, elle chantait pas mal en France, puis nous allons y revenir au Capitole, bien évidemment. Mais très rapidement, l'opéra comique ne va pas être assez grand pour elle, on va dire. Et c'est l'opéra de Paris, le fameux Palais Garnier, qui va s'emparer de cette cantatrice. Elle y fera ses débuts en 58.
Oui, elle a commencé à Liège en 53, elle a 22 ans.
Voilà.
Et donc, à 27 ans à peine, elle rentre voilà. À l'opéra de Paris.
Voilà. En 56, elle aborde Olympia. Tout d'abord à l'opéra comique. Ça, c'était pas un rôle qu'elle avait pour l'instant à son répertoire. Et puis, 20 ans après, alors ça, c'est juste une anecdote, mais 20 ans après, elle chantera cette même Olympia, mais au Palais Garnier, dans la fameuse production de Patrice Chéreau, enfin, une très, très grande production. Mais c'est pas le moment de ses débuts au Palais Garnier, puisque ses débuts au Palais Garnier se feront en 1958, avec un rôle qu'elle n'a pas trop fréquenté finalement, mais bon, c'est circonstance du dialogue des Carmélites. Voilà. Donc après, on reviendra sur les saisons au Capitole, ou alors on les aborde maintenant.
On les abordera après, on peut peut-être parler rapidement de sa carrière internationale, parce qu'elle va faire Lucia.
Alors là, il y a eu un événement aussi, mais vous savez, tous les chanteurs, les chanteuses ont ce moment, ce déclic du destin, et pour elle, c'est 1960. Opéra de Paris, Lucia, John Sutherland. John Sutherland, à un moment, dit d'une grande diva, la stupenda. Et elle décide qu'elle a assez chanté Lucia. Et donc, crac, on se trouve un peu en panne de Lucia. Mais on savait qu'il y avait une Lucia qui traînait, entre guillemets, dans les couloirs de l'art lyrique français. Et donc, il lui propose, quasiment au pied levé, de remplacer John Sutherland, et le succès est au rendez-vous, bien évidemment. Et c'est le départ d'une carrière internationale, et elle va avoir trois rôles à l'international où elle sera demandée en permanence. Alors évidemment, il y a cette Lucia, mais pas que. Il y a un autre rôle qui est la Zerbinette d'Ariane Anaxos. Donc, il y aura Zerbinette, il y aura Lucia et il y aura, bien évidemment, la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée. Voilà. Sa carrière internationale du Métropolitain,
la tournée autour de ces trois rôles,
par Vienne, etc., c'est joué sur ces trois rôles. Mais elle n'a pas fait que ces trois rôles, bien évidemment. Quand nous verrons son répertoire toulousain, nous aborderons, évidemment, plus amplement cette carrière.
Voilà, carrière internationale. Alors, je vais donner ça à la volée. Les villes où elle s'est produite, c'est vraiment impressionnant. Miami, Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Londres, Édimbourg, Amsterdam, Vienne, Munich, Montréal, Seattle, Chicago, Dallas, le Met de New York, bien sûr, Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Bolshoï, Novosibirsk, Odessa, Tallinn, Tokyo, Belgrade, Poznan. C'est plutôt où elle n'a pas chanté qui est difficile à trouver.
Ah, c'était plus facile. Hein.
Voilà. Alors, je propose qu'on écoute une première fois Madame Esplée dans cette émission. Elle a débuté à Liège en 1953 avec l'Acmé. On l'écoute dans l'Acmé, l'opéra de Léo Delibes. Maddy Mesplé dans cet extrait de L'Acmé, où va la jeune hindoue, l'air des clochettes. Est-ce que cette interprétation est typique de l'art du chant, de la tessiture, de la technique vocale de la soprano toulousaine, Robert?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'à une époque, il y a eu des sopranos lyriques, coloratures extrêmement célèbres. Il y avait le rossignol suédois, Jenny Lind, il y avait Mado Robin, il y avait Lily Pons. Toutes ces cantatrices étaient surtout des techniciennes. Or, en fait, avec Maddy Mesplé, évidemment, je ne suis pas persuadé que le disque lui rende pleinement justice, mais quand on a la chance de l'avoir entendu plusieurs fois sur scène, au Théâtre du Capitole en particulier, Maddy Mesplé, d'abord techniquement, c'était très sûr. C'est-à-dire, elle avait une voix relativement longue, parfaitement accrochée, parfaitement homogène, pour les rôles, bien évidemment, qu'elle interprétait et qu'elle choisissait avec beaucoup de prudence d'ailleurs. Et en même temps, elle interprétait, c'est-à-dire qu'il y avait derrière chaque phrasée, derrière chaque nuance, derrière chaque note, il y avait une intention. Et ça, c'est très important. Avec Maddy Mesplé, l'émotion était toujours au rendez-vous, absolument toujours au rendez-vous. Et j'aurai des anecdotes tout à l'heure au sujet de Lucia à vous raconter là-dessus.
Oui, alors, ce que j'ai souvent entendu concernant Maddy Mesplé, c'est qu'on disait grande musicienne, grande technicienne, grande comédienne, tragédienne. On lui reprochait un peu son timbre, qui n'était pas des plus agréables. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, les questions de timbre, ce sont des questions de goût.
Bien sûr.
Donc, moi, je serais tenté de vous répondre ce que je réponds chaque fois qu'on me dit « Calas, j'ai horreur à cause du timbre ». Ok, c'est une affaire de goût. John Vickers, j'ai horreur à cause du timbre. Très bien, c'est affaire de goût. Callas a été Callas, John Vickers a été John Vickers, un immense ténor canadien. Voilà, après, si on n'aime pas, si on préfère des choses plus policées, entre guillemets, plus américaines, voilà, bon, après, c'est le goût de chacun. Hein. Moi, ce thème ne m'a jamais gêné. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'elle était sur scène, cette espèce d'acidité du timbre que certains lui ont reproché, on ne l'entendait plus. On ne voyait que l'interprète, on voyait que le personnage.
Alors, puisqu'on parle du personnage de l'interprète, vous avez cité quelques-uns de ses grands rôles. La Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée, Lucia, on va y revenir. Il y en a eu d'autres.
Oui, c'est peut-être le moment de faire un peu le récap de ce qu'elle a chanté à Toulouse, parce que ça va parler,
ça va passer par Toulouse, évidemment.
Un bon nombre de nos auditeurs. Alors, elle a débuté en 1956 à Toulouse, à une époque où tout le répertoire se chantait en français, voilà. Non pas dans Rosina du Barbier de Séville, mais dans Rosine du Barbier de Séville, évidemment. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait languir parce qu'on parlait d'un de ces comparse favori à l'opéra d'un grand baryton, et c'est un palois, et c'était Robert Massard. Mais comment, vous ne l'avez pas deviné, voilà. Elle a chanté mille et mille fois au Théâtre du Capitole avec Robert Massard, et en particulier...
Ah ben moi, je n'y étais pas. Hein. Non, excusez-moi.
Pardon. Et en particulier, bon, cette Rosine, où Robert Massard faisait ses débuts, il avait à cette époque 31 ans. Elle a chanté donc, en 56, en 60, elle reprend Rosine également, mais non pas avec Massard, mais avec Pierre Lehmonet, avec Michel Sénéchal et Xavier Deprat, ça c'était les grandes distributions en fait de l'opéra comique, ne nous trompons pas, hein, que l'on avait à Toulouse. Cette même année-là, elle fait la création à Toulouse d'un opéra comique de Grétry qui s'appelle Zémir et Azor, avec l'une de ses grandes amies, sa grande amie Jeanne Berbier.
Oui.
Bien sûr, elles étaient toutes les deux.
Camarades de régiment, comme l'appelle toujours d'ailleurs Jeanne Berbier.
Jeanne Berbier.
Quand elle parlait de Marie Mespé, c'est mon camarade de régiment.
Voilà, et à nouveau, parce que c'était des années, les années 60, des années, alors je dirais pas faste, mais des années pléthoriques, où il y avait 52 opéras différents par an, bon bref. Et donc, elle reprend en fin d'année le Barbier de Séville, à nouveau avec Massard, Depras, mais avec un joli ténor français d'opéra comique qui s'appelait Michel Cadieu. L'année d'après, sa première Lucia, alors là aussi, avec une distribution, Alain Vanzo, Robert Massard et Henri Médus, je peux vous dire que ça faisait des distributions. Mais là, comme on le disait avec Serge tout à l'heure, c'était en français, bien sûr, sauf Maddy Mespli, qui commençait à avoir ses ailes qui poussaient à l'international, avait dit, d'accord, moi, je veux bien faire ça, mais mes deux grands airs, je les fais en italien.
En italien.
Voilà. Et ben, elle avait parfaitement raison. Voilà. En 64, elle revient avec Rosine et Lucci. En 65, à nouveau Lucci, c'est dire combien de Toulousains ont entendu sa Lucci. En 67, elle chante, alors c'était un peu plus rare, hein, c'était Arlette. Dans La Chauve-souris, en français. Cette année-là, elle devait faire Sophie du Rosenkavalier. Eh oui.
Et je me souviens, j'y étais.
Et elle est remplacée au dernier moment par Liliane Berton.
Exact.
Cette année-là également, elle nous fait Fra Diavolo d'Aubert, avec aussi un grand ténor d'opéra comique, Michel Sénéchal. Et elle nous fait une magnifique Juliette, de Roméo et Juliette de Gounod, avec Alain Vanzo comme Roméo. C'est des soirées qu'on ne peut pas oublier, Serge, tu es bien
absolument
de mon avis.
Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais ils s'entendaient parfaitement.
Ils s'entendaient parfaitement.
À la fois vocalement et comme personne.
Dans le jeu
comme
aussi.
Personne, oui. Ouais, ouais. Et ce Roméo, je le cite, était dirigé par Alain Lombard. Voilà. En 68, elle vient nous faire la flûte, mais en français. En 74, elle revient encore une fois, mais qui va s'en plaindre, dans Lucci avec Vanzo, mais cette fois avec Matteo Manoguera et Gérard Sercoyon. Et en 72, moi, c'est la dernière fois, c'est l'année où je l'ai entendu pour la dernière fois, elle a chanté Rigoletto en français, dirigé par Michel Plasson. Pour la petite anecdote, mais il ne faut pas le répéter, surtout pas, Michel Plasson n'était pas trop habitué à la résonance de la fosse capitoline. Il avait un peu l'habitude de couvrir les chanteurs. Et je me souviens de la première de Rigoletto qui s'était un peu mal passée. Même à un moment, ça avait été interrompu. Nous sommes, je pense, en 1968. Et elle a terminé, d'après moi, mais peut-être je me trompe, la dernière fois au Capitole avec la flûte enchantée.
Voilà, je propose qu'on fasse entendre une nouvelle fois la voix de Maddy Mespli dans un de ses plus grands rôles. Vous l'avez souvent cité, elle interprète ici en français la cavatine du premier acte de Lucia di Lammermoor, l'opéra de Gaetano Donizetti.
Thank you.
très bel extrait de Lucia di Lammermoor, l'opéra de Gaetano Donizetti, la cavatine du premier acte, chantée en français donc par Maddy Mesplé. Et Robert, vous vouliez nous raconter une petite anecdote concernant Lucia, justement.
Au sujet de Lucia, c'était quand les ténors avaient, y compris Alain Vanzo d'ailleurs, avaient à chanter Lucia avec Maddy Mesplé, c'était un peu leur terreur. Pourquoi ? Parce que à la fin de la scène de la folie, c'était, pas des heures, mais enfin, des dizaines de minutes d'applaudissements. C'était même Maddy qui demandait au public d'arrêter d'applaudir. J'avais une dernière fois, elle était accrochée au rideau du Capitole qui était baissé et elle agitait les mains en disant « Arrêtez, arrêtez !» Pourquoi ? Parce que c'est pas la fin de Lucia di Lammermoor. Derrière, il y a le ténor qui trépigne depuis demi-heure.
Oui, alors là, c'est terrible. Hein.
Alors, non seulement c'est embêtant parce qu'il faut que d'un instant à l'autre, il se remette dans son personnage, mais surtout, vocalement. Il a arrêté de chanter pendant demi-heure, le ténor. Il faut qu'il s'y remette immédiatement.
Anecdote amusante, il y en a sans doute parmi ceux qui nous écoutent qui se rappelleront de ces moments-là. Alors, Maddy Mesplé, elle ne s'est pas contentée de chanter les grands rôles du répertoire lyrique. Elle avait même l'esprit assez aventuré, puisqu'elle a aussi collaboré avec des compositeurs bien contemporains de son époque, par exemple Betsy Jolas.
Mais oui, et Betsy Jolas a écrit pour elle son quatuor numéro 2, dans lequel le second violon est remplacé par une voix de soprano colorato, celle de Maddy Mesplé. Et donc, Maddy Mesplé a été très amie avec Betsy Jolas, et donc elle a vraiment non seulement créé l'œuvre, mais elle l'a chantée à plusieurs reprises, et c'était vraiment un plaisir pour elle que de s'investir dans ce genre de répertoire. Et puis, elle a chanté pas mal de Schoenberg. Là aussi, c'est son deuxième quatuor, écrit par Schoenberg pour quatuor à cordes et soprano. La soprano intervient, je crois, dans deux mouvements. En plus, c'est une œuvre terriblement difficile qui culmine au contrefa. Contrefa qu'elle possédait, évidemment, mais quand même. Et donc, c'est une œuvre qu'elle aimait beaucoup. Je me souviens d'en avoir discuté avec elle. Elle était vraiment très heureuse de chanter des œuvres comme ceci. Et en plus, elle a chanté également dans une autre œuvre de Schoenberg, sous la direction de Pierre Boulez, dit Jakobsleiter, c'est-à-dire l'échelle de Jacob. Elle l'a enregistré avec Pierre Boulez. Elle s'est très bien entendue avec Pierre Boulez. D'ailleurs, je me souviens que lorsqu'il s'est trouvé que nous étions ensemble au Festival de Bayreuth, lorsqu'il y avait la production Boulez-Chéreau du Ring. Cette production a commencé en 1976, c'était le centenaire, et elle allait chaque fois discuter avec Boulez, avec Chéreau, puisqu'elle avait travaillé avec l'un, avec l'autre. C'était vraiment une cantatrice très ouverte, et si elle pouvait se permettre de chanter à la fois le grand répertoire lyrique et classique et le répertoire moderne, c'est parce qu'elle était très musicienne et parce que pour elle, le solfège ne lui posait aucun problème.
Oui, alors je vois aussi qu'il y a un compositeur toulousain, vous devez savoir lequel, qui a composé pour elle ses quatre poèmes de Sappho. Comment s'appelle-t-il ce compositeur ?
Charles Chêne, grand compositeur toulousain, oui, absolument. Oui, il était très proche aussi, hein.
Je pense que certains de nos auditeurs sont intrigués parce que nous venons de dire, en parlant des collaborations Maddy Mesplé avec les compositeurs de son époque, on va écouter un extrait de ce fameux quatuor numéro 2 pour soprano et trio à cordes composé par Betsy Jolas pour Maddy Mesplé et qui fut créé par Maddy Mesplé en 1971. Le quatuor numéro 2 pour soprano et trio à cordes composé par Betsy Jolas pour Maddy Mesplé et chanté par Maddy Mesplé dans cet extrait. En dehors de ses compositeurs avec lesquels elle a collaboré, avec quel partenaire et chef d'orchestre Maddy Mesplé a-t-elle chanté le plus souvent? Il y en a aussi de très prestigieux parmi ceux-ci.
En fait, quand elle chantait à Vienne ou Métropolitane, tous les chefs du grand répertoire étaient là, bien sûr. Mais je souhaiterais ajouter quelque chose, c'est qu'on a cité un certain nombre de rôles qu'elle a interprétés au Théâtre du Capitole. Mais elle a eu bien d'autres rôles en dehors de ce quatuor et de bien d'autres œuvres contemporaines. Elle a également chanté Oscar du Bal Masqué, Norina de Don Pasquale, Thérèse dans Les Mamelles de Tirésias, mais ça n'étonnera personne. Quelque chose dans lequel elle n'est pas forcément répertoriée, c'est le répertoire baroque et en particulier l'Alcina de Handel où elle a chanté Morgane.
Ambroise Thomas aussi, elle a chanté des œuvres.
Elle a chanté Ophélie, bien sûr.
Ophélie, hein. Philine, ouais.
Elle a chanté la comtesse Adèle de Contori. Elle a chanté La fille du régiment également. Elle avait énormément d'œuvres à son répertoire. Et puis elle avait aussi, on parlait de partenaires, alors on en parlait de partenaires à la scène évidemment, mais elle avait un partenaire télévisuel aussi et nous sommes certainement très nombreux, encore je l'espère, à nous en souvenir, c'était Jacques Martin.
Oui.
Alors tout le monde le sait, Jacques Martin rêvait de faire une carrière.
Oui, il a rêvé d'être beaucoup de choses. Oui, hein. Il s'est rêvé de sa chagrin.
Je pense que c'est plus ou moins arrêté à Ménélas de la belle Hélène. Bon. Mais en fait, il compensait en faisant venir des chanteurs et il faisait entre autres venir Maddy Mesplé. Mais malheureusement, et Maddy Mesplé le disait elle-même, il me fait toujours venir pour que j'interprète des airs d'opérette. Alors qu'en fait, ça n'a pas été son grand répertoire, l'opérette. Mais en fait, c'était un répertoire qui touchait au plus grand nombre. Et ça, c'était important en même temps pour montrer que l'opérette, ce n'était pas une sous-catégorie. Voilà, on pouvait être une grande Lucia au Metropolitan de New York et chanter la vie parisienne ou la veuve joyeuse. Voilà.
Bon, elle a quand même eu un partenaire très connu, et je pensais qu'on allait en parler, mais on va en parler maintenant. C'est Gabriel Baquier, qui était son partenaire dans Rigoletto. On va les écouter tous les deux dans le duo de Gilda, Maddy Mesplé et Rigoletto. Gabriel Baquier, c'est à l'acte 3 de l'opéra de Giuseppe Verdi. Rigoletto dans l'acte 3 du célèbre opéra de Giuseppe Verdi interprété en français encore par Maddy Mesplé et Gabriel Baquier. Ça va nous donner l'occasion d'évoquer le grand baryton français mort 2 semaines avant Maddy Mesplé. Robert et Serge d'ailleurs, vous l'avez souvent vu sur scène, notamment au Capitole. Est-ce qu'il y est souvent venu et quel rôle il interprétait?
Oui, on a eu le privilège, comme avec Maddy Mesplé, de la voir au Théâtre du Capitole très très souvent. Il a débuté au Capitole dans Hamlet en 1961, dont il s'était plus tout à fait un débutant. Hein.
Non, pas du tout.
Déjà, il avait été en troupe à la Monnaie, à l'Opéra Comique, à l'Opéra, ben, un peu comme Maddy Mesplé. Hein. Pourquoi les plus grandes scènes du monde se sont emparées de notre baryton bitérois ? C'est que, tout simplement, Gabriel Dussurgé lui a proposé pour Aix-en-Provence de faire, en 1960, il avait 36 ans, de faire Don Giovanni. Il a vu dans ce personnage une élégance, une virilité, quelque chose qui correspondait tout à fait à ce que Gabriel Dussurgé, le directeur historique du Festival Aix-en-Provence, imaginait pour Don Giovanni. Ce Don Juan a été télévisé à la télévision française. Évidemment, comme pour l'histoire de l'Acmé à Liège pour Maddy Mesplé, ça a fait le tour de la planète. Immédiatement, on s'est dit, mais il y a un nouveau Don Juan qui vient de naître. Et clac, voilà, la carrière internationale de Gabriel Baquet a débuté avec ce Don Giovanni Exo. Alors, pour en revenir, Eric, à votre question, Toulouse l'a vu débuter en 61 dans Hamlet. Ensuite, tous les ans, on l'avait. En 62, évidemment, Don Juan, mais également l'un de ses rôles fétiches, qui était Scarpia de la Tosca. En 63, il venait nous chanter Germont de la Traviata, plus Hamlet, plus à nouveau Tosca, mais qui s'en serait plaint. En 65, c'était à nouveau Don Giovanni et Tosca, mais il y avait à l'abonnement et on avait près de 60 soirées réservées, donc il fallait bien mettre des opéras, et il y avait souvent des opéras qui étaient donnés plusieurs fois dans la saison. En 68, alors, quelque chose d'un peu bizarre, hein, Boris Godounov, alors que Baquet était quand même plutôt un baryton-baryton qu'un baryton-basse. Mais il faut dire que Gabriel Baquet, comme Maddy Mesplé, était un interprète qu'il fallait voir sur scène. Il était littéralement envoûtant. Dès qu'il était sur scène, clairement, il avait beau être au milieu de 100 choristes, on voyait que lui. Et donc, son Boris Godounov, même si l'on peut peut-être reprocher un peu de faiblesse dans le bas du registre, ben, il passait parce que la mort de Boris avec lui, ça aurait fait pleurer des pierres. C'était absolument incroyable. En 69, il revient pour la Tosca. En 70, à nouveau, une surprise, il est affiché dans Faust, dans Mephisto. Ben, son Mephisto aussi, bon, il y a certaines notes dans le grave qu'on avait un peu de peine à entendre, mais il n'a pas été le seul dans l'histoire. Hein. Mais il faisait un Mephisto, à la fois justement pas ce Mephisto auquel on peut s'entendre, sardonique, enfin, etc. Il faisait vraiment l'esprit du mal, mais le malin. Et ça, c'était extraordinaire. Il n'y avait que lui sur scène. On ne voyait que lui. C'était l'art de Gabriel Baquet. C'était aussi un artiste, comme la France en a compté finalement peu. En 72, lui également, Serge... Ben voilà, il s'est lancé dans l'opéra contemporain, puisqu'il a créé un opéra de Daniel Lecioux qui s'appelait Andrea del Sarto.
Voilà.
Je ne pense pas qu'il ait fait une grande carrière dans l'opéra contemporain, non, à non, ma non. connaissance.
Moi, je ne connais que cette œuvre-là.
Je pense que ça relève de l'exception. Hein.
Oui, oui, oui. Oui. Ben, c'est Toulouse qu'il a eu parce qu'il était très attaché au Capitole de Toulouse. Après, il a commencé à venir un peu moins régulièrement. Hein, donc, après 72, on le retrouve en 79. Pour un Péléas en concert à la Halle aux Grains, dirigé par Michel Plasson. Donc en 79, il y a ce Péléas en concert à la Halle aux Grains, et également Don Pasquale, hein, le rôle-titre, bien sûr. Et en 86, il vient chanter Così fan tutte, hein, Alfonso.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et en fait, en 92, à mon sens, il nous tire sa révérence avec un ultime Don Pasquale.
Longue carrière de Gabriel Baquet de manière générale, mais entre autres au Capitole, hein. Très très longue. Voilà donc pour ce grand grand chanteur qui lui aussi nous a quitté il y a quelques semaines. On revient à Maddy Mesplé, juste on arrive à la fin de l'émission. Rappelez que ça a été aussi une spécialiste de la mélodie française, qu'elle a beaucoup défendue. Elle a notamment enregistré plusieurs CD de mélodie française.
Ah oui, oui, Poulenc, Satie,
Reynaldo Hahne,
Forêt, Gabriel Forêt aussi, oui.
Debussy, je crois aussi, qu'elle a chanté.
Oui,
des mélodies de Debussy.
Oui.
Et puis, après, elle a arrêté donc, sa carrière sur scène et elle est devenue une très grande pédagogue. Elle a enseigné à partir des années 80, je crois tout début des années 80, bon, en France, à divers endroits, mais aussi à travers le monde.
Oui, 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 elle avait des élèves dans le monde entier. Hein.
Il y a une chose que vous avez rappelé, Robert, c'est qu'on la voyait beaucoup à la télévision. Ça a été un peu une pionnière dans ce domaine. Hein. Bon, maintenant, c'est plus trop rare de voir des chanteurs lyriques que se produire dans des émissions, y compris de variété. Elle a été la première, et c'était dans les milieux des années 70 à peu près. Donc on l'a vu chez Jacques Martin, vous l'avez dit, chez Jacques Chancel. Je me rappelle l'avoir vu chez Pascal Sevran, la chanson chanson. Comme on dit aujourd'hui, elle avait l'art de casser les codes et de se produire dans des registres très différents. Et bien écoutez, ce qui va suivre, ça va peut-être vous étonner un peu, mais il s'agit bien de Maddy Mesplé.
On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main par les rues, nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, c'est devant l'heure qui garde le bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de bruit. Un aveugle jour de langue de barbarie, cet air sera pour nous le plus beau, le plus joli. Toi tu m'inviteras, ma taille tu prendras, nous danserons tranquilles loin des gens de la ville. Danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part.
Vous aurez reconnu « Un jour tu verras » cette chanson délicieuse, charmante, écrite par Mouloudji sur une musique de Georges Van Paris, et c'est bien Maddy Mesplé qui la chantait. Étonnant, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez cette version, l'un et l'autre?
Alors, non, pas franchement, mais je trouve ça tout à fait, on en parlait off avec Serge, on trouve ça tout à fait remarquable parce que c'est un exercice très difficile. On s'imagine que qui peut le plus peut le moins, si tant est que le moins c'est la chanson de variété, ce qui n'est pas écrit encore. Mais beaucoup de chanteurs d'opéra nous disent comme il est difficile de faire ce qu'on appelle un terme anglo-saxon du crossover. Il faut placer sa voix autrement, il ne faut pas prononcer pareil, il ne faut pas respirer pareil, c'est extrêmement difficile à faire. Et elle le fait admirablement. Bravo, merci d'avoir choisi ça pour terminer cette émission.
Ah oui, tout à fait.
Je pense que c'est une petite pépite.
Tout à fait. Elle a une facilité, on a l'impression qu'elle a toujours fait ça, alors que c'est quand même exceptionnel dans sa carrière.
Je ne sais pas quand elle l'a fait d'ailleurs, parce qu'elle a la voix, elle a l'air assez jeune. Alors,
oui.
Ça doit dater de l'époque où elle était en plein dans sa carrière lyrique internationale.
Oui.
Je ne sais pas quelle occasion elle l'a fait, mais ça doit pouvoir se trouver. Et bien voilà, c'était la dernière émission de la saison. Je suis ravi que nous ayons pu la consacrer en grande partie à Maddy Mesplé, dont la mort nous a tous affectés. De même que nous avons été très touchés par celle de Gabriel Baqué et puis récemment celle de Nicolas Joël. Trois grands noms de l'opéra français dont nous continuerons à honorer la mémoire à Mélomanie lorsque l'occasion s'en présentera. Merci à tous les deux, Robert et Serge, d'avoir été si souvent au rendez-vous pour m'assister dans l'animation de cette émission. Je peux vous dire que votre culture musicale, votre passion de la transmettre sont très appréciées des auditeurs. J'ai beaucoup de réactions et de commentaires qui vont en ce sens après chaque numéro. Je vais associer à ces remerciements notre amie Anne-Marie Chouchan, également chroniqueuse régulière de Mélomanie. Aujourd'hui, c'est Francky Guéret qui réalisait cette émission. Qu'il en soit remercié. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry pour avoir assuré la régie technique tout au long de cette saison. Le podcast de ce numéro est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Rendez-vous début septembre et d'ici là, passez tous de très bonnes vacances.